Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une, 24 heures de blocus entre la France et l'Angleterre et déjà des premières fermetures d'usines.
Toyota va devoir stopper sa production et les commerçants de Calais n'avaient vraiment pas besoin de ça. Toujours aucune trace de Delphine dans le Tarn. Patrick Hisson a pu discuter avec le mari de cette mère de famille disparue dans des circonstances étranges. La réforme des retraites finalement, ça peut attendre la fin du quinquennat. Et puis les huîtres bio sur le bassin d'Arcachon, ça c'est une première.
RTL Matin.
Mais d'abord, cette conséquence inattendue de l'épidémie, un boom de la chirurgie esthétique aux États-Unis, visiblement pour de nombreux employés. Les caméras de visioconférence sont bien cruelles, Karine Auten.
Oui, à l'heure du bilan 2020 des opérations esthétiques, quelques chiffres. Le recollement des oreilles multiplié par 10, les liftings du visage plus 188%. Et pour ce qui est des opérations du nez, on a un quasi-doublement des interventions. Vous le voyez, c'est une tendance très claire depuis le début de la pandémie. Alors, vous allez me demander pourquoi. C'est simple, ceux qui ont fait l'expérience des visioconférences en télétravail peuvent peut-être le comprendre. Les conférences par Zoom, on va être honnête, ce n'est pas très flatteur. J'ai eu l'analyse du docteur Amy Graeber de Boston.
Les webcams en général modifient notre apparence. Elles grossissent notre nez de 30% et rendent nos yeux un peu plus grands. Beaucoup de mes patients travaillent à distance et sont sur Zoom. Ils sont devenus très nombreux à commenter leur apparence.
On résume, un nez plus gros, un visage déformé. Il y a désormais un nom scientifique pour ça. Ça s'appelle la dysmorphie Zoom. Il n'en faut pas plus pour déclencher des vagues d'opérations esthétiques. Parmi ceux qui ont bénéficié de ce boom, le docteur Sanderoff de Park Avenue, ici à New York. Avec un avantage supplémentaire, le télétravail, ça permet une convalescence plus facile.
La chirurgie du visage, c'est impossible à cacher. Donc d'habitude, les gens prendraient des congés. Mais en travaillant à la maison, vous faites l'opération, prenez un jour ou deux et reprenez le travail à distance sans problème.
Les interventions invasives font leur grand retour et marchent sur les plates-bandes des injections et du Botox, qui leur étaient pourtant bien plus populaires avant la pandémie.
Karine Auten aux États-Unis pour RTL.
24 heures de fermeture entre la France et l'Angleterre et la facture continue de grimper.
La frontière entre les deux pays est toujours fermée depuis la découverte d'une nouvelle souche de coronavirus mutant qui le rendrait beaucoup plus agressif selon Emmanuel Macron. Et conséquence, ce matin, on apprend que Toyota va devoir suspendre la production dans 3 usines, dont celle de Valenciennes. Faute de pouvoir recevoir suffisamment de pièces détachées, les poissons anglais, les fruits de mer, homards et crustacés sont bloqués à Douvres. Ils n'arriveront peut-être jamais sur les tables du réveillon. À Calais, les commerçants comptaient également sur la période des fêtes pour tenter de se refaire une santé.
Le mois de novembre et le mois de décembre de cette année, on l'avait encerclé en rouge en se disant « on va vivre le Christmas shopping habituel ». Et en fait, ça risque quand même de briser cette petite dynamique de fin d'année. J'avais des clients qui avaient prévu des commandes, qui venaient les chercher aujourd'hui ou demain, qui, dans le meilleur des cas, vont venir dans quelques jours, dans le pire des cas, vont annuler. Mais ça, je ne le saurais que demain ou après-demain.
Des propos recueillis par Antoine de Carne pour RTL.
Le premier vaccin, celui de Pfizer-BioNTech, vient d'être validé par l'Union européenne.
La campagne de vaccination devrait pouvoir commencer dimanche dans les EHPAD français, selon le ministre de la Santé. Un vaccin qui vaut de l'or, pas seulement pour les médecins, pour les criminels aussi. Interpol s'attend à une hausse dramatique des vols et des attaques contre les transports de vaccins. Le contrôleur général Michel Lavaux, porte-parole de la police nationale.
Le risque est que les délinquants adoptent et profitent de ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Et effectivement, la campagne de vaccination qui s'annonce crée ce nouvel environnement comme l'avait créé, et c'est pour ça que nous avons un exemple très récent, comme l'avait créé le premier confinement. Souvenons-nous des escroqueries au masque ou au gel hydroalcoolique qui n'étaient pas performants. Nous avions même des escroqueries sur des attestations de déplacement qui étaient payantes. Donc effectivement, la délinquance va essayer de profiter de ces effets d'opportunité et c'est le message d'Interpol. Et la police s'adapte également à ces circonstances. Les directeurs départementaux de police vont par exemple travailler à analyser la vulnérabilité des sites de stockage, d'acheminement et de distribution. Donc là, nous aurons un examen pour savoir si tel site est trop vulnérable et s'il l'est, essayer de trouver les mesures qui élimineront ces potentielles vulnérabilités.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. Et puis c'était le dernier continent épargné par l'épidémie de coronavirus. Un foyer de contamination a été découvert en Antarctique, sur une base militaire de l'armée chilienne. 36 personnes testées positives positives. Elles auraient été contaminées par les passagers d'un bateau qui s'est récemment rendu sur place.
Vous écoutez RTL, il est 8h05, on va dans le Tarn dans un instant où l'enquête se poursuit 6 jours après la disparition mystérieuse d'une mère de famille. A tout de suite.
Jérôme Florin.
RTL Matin. RTL Matin.
8h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan et la gendarmerie qui va mobiliser des plongeurs pour tenter de retrouver Delphine Jubillard dans le Tarn.
Les recherches se poursuivent autour de Cagnac-les-Mines. 6 jours après la disparition mystérieuse de cette mère de famille, elle serait partie en pleine nuit, selon le récit de son mari. En tout cas, vous l'avez rencontré, Patrick Hisson.
Protégé par une capuche sous une pluie fine qui tombe sur Cagnac-les-Mines, Cédric Jubillard accepte de répondre à quelques questions, mais sans être enregistré. Il a le visage très fatigué et se sent, dit-il, abattu. Il explique que c'est sa fille de 18 mois qu'il a réveillée dans la nuit à 4h30 et qu'il a alors constaté la disparition de Delphine. Cédric confirme qu'il était en instance de divorce et que c'est sa femme qui souhaitait cette rupture, mais assure-t-il, tout était fait en bonne intelligence pour préserver les enfants. Il a aussi le sentiment que dans le village, il apparaît pour beaucoup comme un suspect, fruit, dit-il, des dernières affaires criminelles dans le pays. Et ses soupçons ne font que rajouter à sa douleur. À ses côtés, l'oncle et la tante de Delphine sont eux aussi dévastés. Il faut savoir qu'ils étaient très proches de cette femme de 33 ans qui avait très jeune perdu ses parents.
Delphine, c'est une nièce, mais c'est comme une fille pour nous. C'est une fille en plus dans notre famille et elle lui manque beaucoup et on n'est pas bien.
Et je suis vraiment triste de ne pas comprendre comment elle a pu disparaître comme ça. Elle allait très bien, je ne comprends pas.
Et c'est le même sentiment pour tous les proches de Delphine qui ne s'explique toujours pas comment elle a pu quitter son domicile sans ses enfants.
Le reportage de Patrick Hisson dans le Tarn pour RTL.
Alors, cette réforme des retraites, urgente ou pas ?
Bon, c'était la priorité du gouvernement avant la crise sanitaire. Elle a été suspendue depuis quasiment un an. Et puis aujourd'hui, le comité de suivi des retraites vient de rendre son avis. Il est plutôt surprenant, hein, Armelle Lévy.
Oui, pour l'instant, la réforme des retraites peut attendre, prévient le comité, puisque personne ne sait comment va évoluer la situation et personne ne peut donc dire comment gérer les projections des 2-3 années qui viennent. Donc cette année, pour financer les retraites, l'État s'est endetté, c'était inévitable. Et comme les taux sont bas, c'est ce qu'il fallait faire, précise le rapport. Donc s'endetter cette année, c'est normal. L'année prochaine également. Donc implicitement, cela signifie que le gouvernement peut continuer ainsi jusqu'à la prochaine présidentielle. Mais, ajoute le rapport, cela ne peut pas être une stratégie durable. Donc la réforme devra bel et bien s'appliquer pour ne pas faire peser la charge sur les générations futures. Ce rapport remis à Matignon va donc dans le sens d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui explique que la réforme des retraites est nécessaire, mais ce n'est pas la priorité absolue en raison de la crise sanitaire. Ce qui n'est pas du tout l'avis de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui demande depuis des semaines à l'Élysée de réactiver la réforme des retraites.
Les explications signées Armelle Lévy pour RTL. Et puis un retraité alors très heureux, c'est le gagnant français de l'Euromillion, issu du sud de la France. Il vient d'empocher le chèque de 200 millions d'euros. Il promet d'être généreux, notamment avec les hôpitaux. Pas de folie, hein, promet-il, mais il souhaite offrir une voiture à sa fille et faire quelques travaux dans sa maison.
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, comme
exactement,
on dit.
Ouais.
Juste à temps pour le réveillon, les premières huîtres bio du bassin d'Arcachon.
Oui, ils ne sont pas nombreux en France, les ostréiculteurs qui sont parvenus à obtenir le label, une dizaine à peine. Après de longues démarches, Anne et son compagnon sont les premiers et les seuls à élever des huîtres bio dans leur région. Juliette Chénion s'est rendue sur place pour vérifier.
Bottes aux pieds et vareuse rouge, Anne Marquet emballe ses bourriches d'huîtres biologiques. Elle a mis 3 ans à obtenir ce label. Il garantit des huîtres non triploïdes, c'est-à-dire non OGM.
Et ce qui nous semblait aussi important derrière, c'était la traçabilité du produit. On est obligé de les élever de A à Z pour bénéficier du label.
Ces huîtres sont contrôlées tous les ans. Elles doivent naître et grandir dans le bassin d'Arcachon. L'ostréicultrice les bichonne jusqu'à la vente.
On les connaît toutes par leur petit nom. C'est pas des cailloux, c'est fragile, c'est vivant.
Cette année est une bonne année avec des huîtres bien en chair.
Perso, je préfère les avoir bien dodues, bien croquantes, bien charnues, plutôt que de voir la coquille à travers le mollusque.
Et le prix ne bouge pas, 5,40€ la douzaine de numéro 4.
S'il y a le joli sourire derrière le masque, on glisse la 13e. C'est sûr qu'on sera un petit peu plus cher que les voisins sur le port. On essaie d'avoir des prix cohérents avec le bassin d'Arcachon.
Un prix raisonnable, d'après Christophe, cet habitué repart 2 bourriches sous le bras.
C'est vrai que ça m'a plu de me dire que c'était des huîtres naturelles, bio, et on revient.
Sur le bassin d'Arcachon, Anne Marquet est pour l'instant la seule à faire du bio, mais elle espère ne pas le rester longtemps.
Je vous garde une bourriche de côté. Ah bah,
j'allais vous demander.
Ah bah oui, bah voilà, ce sera fait. Je demanderai à Juliette Chénion, celle qui a fait ce reportage pour
RTL. Merci beaucoup.